écoutez Allegre FM 93.1.
Nous sommes sur Allegre FM 93.1. Dans la vie est un roman, nous sommes mardi matin, il est 11h. Et chers auditeurs et chères auditrices, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour la première émission de la saison. Je tiens à saluer derrière la vitre Enrico Bonovani, que je retrouve aussi avec plaisir. Et nous avons un invité ce matin qui est historien et sociologue de l'architecture, qui est chercheur, Jean-Louis Violo, et qui a sorti au début de l'été un livre aux éditions Parenthèses, Baudrillard et le monstre, entre parenthèses, l'architecture. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Yves. Content de te retrouver aussi.
Moi aussi, c'est toujours avec un plaisir que je te retrouve, avec grand plaisir que je te retrouve. Et je te propose peut-être pour situer Baudrillard et l'architecture, de commencer par nous expliquer qu'il était germaniste.
De formation, en effet, et traducteur de l'école de Francfort, ce qui n'est pas sans lien avec ce qu'il écrira ensuite à propos de l'aliénation et des industries culturelles.
Et donc on pourrait alors tout de suite parler de son rapport avec Henri Lefebvre, expliquer qui était Henri Lefebvre. Par exemple, moi qui fais 5 ans d'histoire de l'art à la fac, mon premier exposé sur l'architecture en 1974 est un exposé sur un livre d'Henri Lefebvre.
Alors Henri Lefebvre est quelqu'un d'encore aujourd'hui très lu. En fait, probablement plus lu aujourd'hui dans les écoles d'architecture qu'il ne l'était il y a 25 ans. Il a subi une longue éclipse, qui est celle des années 1990, l'après-chute du mur de Berlin, parce que Henri Lefebvre était un sociologue marxiste. Et quand on relit Le droit à la ville, donc paru en 1968, on voit très bien à quel courant de pensée se rattache Lefebvre. Et d'ailleurs, valeur d'usage, valeur d'échange, le droit à la ville est quand même fortement structuré par la phraséologie marxiste. Mais, et c'est ce qui a fait la postérité longue de Lefebvre, au-delà de son canevas de pensée idéologique, c'est une certaine sensibilité. C'est-à-dire que lorsqu'il parle du droit à la ville, il en parle en termes infrastructurels et superstructurels, mais il dit aussi que le droit à la ville, c'est le droit au centre, parce que c'est le droit à la beauté. Et ça, ce sont des choses qui parleront toujours au lecteur, quelle que soit la génération dont il est issu. Et c'est ce qui explique aussi la postérité longue de Lefebvre, son éclipse à la fois, mais aussi sa résurrection ces dernières années, rencontrant des préoccupations assez contemporaines. Alors ensuite, sur la postérité de Lefebvre, elle est un peu Janus, et d'ailleurs, ça, ce n'est pas un hasard, ça dit aussi des choses sur à la fois cette sensibilité esthétique et cette raideur un peu marxiste. C'est-à-dire qu'il a eu deux postérités dans les écoles d'architecture et dans le monde des architectes. Il a eu une postérité qui s'est intéressée plutôt aux monumentalités discrètes, au patrimoine banal, aux typologies domestiques.
Le côté situationniste.
Non, ça c'est le côté Bernard Huet, UP8, ouais. École d'architecture de Paris-Belleville aujourd'hui, sociologie urbaine, des travaux sur le Creusot, par exemple, sur le patrimoine patriarcal qui a été construit, sur le banal. Ça, c'est d'un côté. Le banal et ses conditions de production, dans une perspective de sociologie urbaine marxiste. Et puis, de l'autre côté, une attirance indéfectible de Lefebvre, alors tu l'as dit, pour les situationnistes, pour les utopistes, pour Constant Nieuwenhuis à l'époque, architecte hollandais proche des situationnistes, puis pour Ricardo Bofill, à la fin des années 1970, en qui il voyait un véritable utopien, grâce à ces mégastructures qui essayaient d'articuler tous les aspects de la vie dans une énorme concrétion. Et donc, il a balancé sans cesse entre ces deux postérités. Je dirais que chez les sociologues, il y a deux, dans cette ligne-là, il y a deux disciples de Lefebvre. C'est Henri Raymond, d'un côté, sociologue à Nanterre, qui est ami avec Bernard Huet, qui travaille avec les gens de Belleville dans les années 1970-1980. Et puis, Jean Baudrillard, de l'autre, qui lui est plutôt proche des architectes d'utopie, d'Hubert Tonca, de Jean Aubert, Jean-Paul Jungmann, Antoine Sinico. Et je dirais que ces deux sociologues-là incarnent l'ambiguïté, l'ambivalence de Lefebvre, un peu Jekyll et Hyde.
Et Baudrillard sera son assistant à Nanterre.
Oui, il a été, puis ensuite il s'est plus ou moins éloigné de Nanterre dès le début des années 1980. Mais... au moment, paradoxalement, où il a passé son HDR, HDR, habilitation à diriger des recherches, qui est un peu le couronnement des diplômes qu'on peut obtenir en tant qu'enseignant dans un établissement d'enseignement supérieur. Et le jour où il l'a obtenu, c'est-à-dire en 1986, grosso modo, il avait quitté l'université. Il était accueilli à Dauphine, mais il n'enseignait plus. En fait, il a enseigné une petite vingtaine d'années, une grosse quinzaine d'années, entre 1966-67, jusqu'en 82-83, au moment où il quitte Nanterre pour aller à Dauphine. Il retrouve Marc Guillaume, et puis il passe son HDR, et puis ensuite il devient, disons, un intellectuel un peu oracle.
Et donc, dans ton livre, tu vois deux Baudrillard, un Baudrillard qui, pendant un certain temps, est pris au sérieux par les autres intellectuels, et puis à un moment, un Baudrillard qui est complètement démonétisé, qui sort du quota mondain de la pensée moderniste.
Alors, démonétiser le terme...
qui devient un outsider.
Oui, démonétiser, le terme est un peu fort. Disons, pour trouver une manière d'imager ce destin, c'est le moment où il passe de Gallimard à Galilée.
Mais on devrait peut-être expliquer ce que c'est la première période.
Oui. C'est le moment où il passe des éditions Gallimard aux éditions Galilée. C'est-à-dire la fin des années 1970. Baudrillard commence à publier ses premiers ouvrages dans une maison d'édition prestigieuse. La société de consommation et le système des objets sont des ouvrages qu'on trouve en poche depuis 35 ans, 40 ans, et qui seront toujours réédités en poche. La critique de l'économie politique du signe, elle est aussi en poche. Donc jusqu'en 1976-1977, il dispose d'un ferme soutien de Pierre Nora, qui est à l'époque quand même le grand éditeur des sciences humaines, puisqu'il n'y a pas que Baudrillard, il y a aussi Foucault, que Baudrillard a souhaité oublier, mais il y a aussi Foucault que Nora édite et plein d'autres. Et puis au moment où, la fin des années 70, où les idées marxistes amorcent un premier recul, Pierre Nora fonde la revue Le Débat, où en fait il va se trouver remplacé par d'autres sociologues. Le premier d'entre eux étant, il est toujours vivant, il publie toujours chez Gallimard, Gilles Lipovetsky, qui va un peu reprendre les idées de Baudrillard autour de la construction de l'individu et d'une nouvelle forme d'hédonisme, je dirais en les infléchissant vers le libéralisme. Paul Yonnet aussi fera partie de ces nouveaux sociologues que Pierre Nora va mettre sur le devant de la scène dans Le Débat. Où Baudrillard ne signera qu'un seul article, une seule fois, il écrira dans Le Débat. Et c'est le moment donc où il trouve un nouvel éditeur qui s'appelle Galilée. Grasset aussi va publier quelques-uns de ses ouvrages et Galilée par la suite. Donc il passe d'une visibilité, d'une position un peu centrale dans le monde des idées à une position plus satellite, un peu iconoclaste, et ce qui correspond aussi à, enfin, ce que j'en ai compris, et puis ce qu'il a pu m'en dire une ou deux fois, à son souhait intime. Baudrillard, c'est tout sauf un homme d'institution.
Et puis, il reste quand même très médiatique, il fait de nombreuses émissions de radio, de télévision, c'est un autre public.
C'est précisément le moment où il passe à la télé,
oui,
ses premiers passages à Apostrophe datent de ce
moment-là.
C'est une
espèce de séducteur avec beaucoup de charme.
Et puis donc là, en l'occurrence c'est ma jeunesse, les années 90, c'est le moment où il a sa chronique régulière dans Libération. Non, c'est pas un marginal, c'est plutôt un marginal de l'intérieur pour le coup.
La chronique dans Libération a un très grand succès, elle marche très très bien.
Oui, et on désespère évidemment qu'il soit mort, parce que je pense que sur Cyril Hanouna, Marlène Schiappa, Benjamin Griveaux, il aurait certainement eu beaucoup de choses à dire.
Et donc avant de passer strictement à l'architecture, on y entre en même temps, mais parler de sa collaboration à Utopie.
Oui, c'est une collaboration amicale. Y a une sorte de proximité.
Quel est le contenu de ces articles dans Utopie ?
Proximité qui a duré très longtemps avec Hubert Tonca jusqu'à la fin, puisque Hubert a publié, tout l'œuvre non publiée de Baudrillard a été publiée par Hubert. Y a vraiment une fidélité très forte sur des décennies et des décennies. C'est une amitié au sens fort. Donc il y a cet élément-là qui est quand même important, parce que la vie et les gens, c'est important.
Fondamental chez les intellos.
C'est important. Ensuite, je dirais que ces participations à Utopie, bah, c'est le brouillon de tout ce qu'il va faire par la suite, sur les objets, sur l'espace, et puis ce qu'il va dire de l'architecture à travers le monstre, ça s'échafaude aussi dans les numéros d'Utopie. On peut voir Utopie comme une mise au banc d'essai des pensées de Baudrillard. À l'ombre des majorités silencieuses, c'est le prélude à la gauche divine qu'il publiera chez Grasset, pardon, en 83-84, la mémoire me fait défaut tout à coup. Mais nombre de ces textes importants ont d'abord été publiés sous forme de galop d'essai dans les cahiers d'Utopie, dans les numéros de la revue.
Ouais, je me souviens d'un article où il parlait de la fin de la possession, enfin d'une espèce d'architecture... qui ne serait plus pérenne, en fait, et que les riches, maintenant, préfèrent n'avoir rien, une vue sur la mer, des choses comme ça, c'était très, très brillant.
Bah, c'était le meilleur, peut-être le meilleur lecteur de Thorsten Veblen, de la théorie de la classe de loisirs, préfacé par Raymond Aron. Si on voulait diviser les choses en deux, le monde ne se divise jamais en deux, mais quand même, parfois, pour des motifs pédagogiques, on peut essayer de faire des grandes catégories. Il y a eu deux lectures de Veblen, de la théorie de la classe de loisirs, qui ressort exactement de la remarque que tu viens de faire. C'est celle de Pierre Bourdieu, dans La Distinction, qui était à l'époque disciple de Raymond Aron, à l'époque où cet ouvrage sort. Et dans La Distinction, Bourdieu ne cite jamais Veblen, mais il l'utilise, ça crève les yeux. Il l'utilise en permanence. Et Baudrillard, dans La critique de l'économie politique du signe, qui sort 2 ans avant La Distinction. La Distinction, c'est 79, La critique de l'économie politique du signe, c'est 77. Veblen est beaucoup cité, et c'est une des références sur lesquelles s'appuie Baudrillard. Donc, oui, alors voilà, en effet, les objets ne comptent plus en tant que tels. Ce qui compte, tu viens de le dire, c'est une vue sur la mer. Ça, c'est Veblen. Et d'un côté, il y a Bourdieu qui en fait une théorie dans La Distinction, le goût des classes dominantes. En fait, on en apprend plus sur le goût des classes dominantes que sur le goût populaire dans La Distinction.
Absolument.
Et puis de l'autre côté, il y a la critique de l'économie politique du signe de Baudrillard. Et l'un cite Veblen, pas l'autre.
Et donc ensuite, dans ton livre, tu vas parler d'un livre qui s'appelle « Learning from Las Vegas », dans lequel il y a des canards. Et quel est le... pourquoi ce livre intervient dans le développement sur Baudrillard et l'architecture ? En quoi ?
Alors, je dirais que Robert Venturi, c'est un peu l'approche qu'aurait pu avoir Baudrillard s'il avait été architecte. D'une certaine manière. Qu'est-ce que fait Venturi ? En fait, il essaye de regarder en bas pour faire de l'architecture pour les gens d'en haut. Il essaye de faire de la brocante sémiologique. Il essaye de faire passer en contrebande des objets communs, du populaire, dans l'univers savant. Lui-même étant très cultivé, il a fait un séjour à Rome, à l'Académie de Rome. Il est enseignant à Yale. C'est un pur produit de l'université américaine. Et il emmène ses étudiants de la côte Est visiter Las Vegas. Et en fait, il a cette phrase qui agit comme lui, comme un motif, qui est « Main Street is almost all white ». Et tout est dans le « presque », tout est dans le « almost ». Donc c'est l'idée de ressourcer l'architecture savante aux mannes, à la source de l'architecture populaire. Et en soi, c'est le mouvement éternel de la sociologie de la culture, hein, le savant et le populaire étant une construction du savant, c'est insécable, il a fallu qu'un jour un ethnologue, un anthropologue, un sociologue, que sais-je, passe devant un groupe qui était en train de se livrer à une fête rituelle pour dire « Ah voilà une pratique populaire ». Voilà une danse populaire, voilà une tradition populaire. Le populaire n'existe pas dans la nature, c'est d'abord une création de savants. Et Venturi, pour lutter contre l'austérité, contre la pureté formelle et la répétitivité du modernisme, va aller chercher aux sources du populaire des arguments pour le contrer. Alors il va les trouver à Las Vegas, mais il va aussi les trouver, et tu lançais là-dessus, dans le canard. C'est-à-dire que le canard, il faut expliquer en deux mots ce que c'est.
Il s'oppose à un autre terme.
Oui, Venturi divise les catégories d'édifices en deux, le canard d'un côté et le hangar décoré de l'autre. Le hangar décoré, c'est une boîte sur laquelle on applique des signes. Pour donner une image, c'est la première génération des zones commerciales, des zones d'activité commerciale. On a mis des boîtes en bardage et on a collé dessus des grands mâts, des signes pour avertir les automobilistes qu'il se passait quelque chose à cet endroit et dire sommairement ce qui s'y passait. C'est le hangar décoré. Et de l'autre, le canard, c'est quand la forme devient le signe, c'est-à-dire quand la forme épouse le contenu de l'édifice. Et il a appelé ça canard parce qu'il y avait une rôtisserie dans le New Jersey qui vendait aussi des articles de pêche et qui avait la forme d'un canard.
Nous sommes sur Allegre FM 93.1 dans La vie est un roman et nous parlons avec Jean-Louis Violo de Baudrillard et l'architecture.
Donc le canard, c'est la fonction devenue signe. Et le hangar décoré, c'est des signes plaqués sur une fonction. Et donc Venturi s'amuse à relire tout un tas d'édifices et il y a énormément d'édifices dans l'histoire de l'architecture qui ont voulu parler de la sorte. On en trouve jusque dans l'architecture utopiste des Lumières, par exemple Lequeux, Jean-Jacques Lequeux, lorsqu'il fait une étable, il lui donne la forme d'un bœuf. Et ça va jusqu'à aujourd'hui où certains Apple Store ont la forme d'un ordinateur portable déplié. Où certains entrepôts d'Amazon ont la forme d'une caisse de livraison d'Amazon. On peut aller jusqu'à une sorte de littéralité, mais qui pour le coup devient un peu asséchante du signe.
Mais donc il décrit Las Vegas comme si c'était la Rome antique, et intervient Donald Duck, donc, puisqu'on parlait de canard, et tu parles aussi beaucoup de Disney, de Walt Disney, à propos de Baudrillard. Quel est le rapport de Baudrillard avec Disney? Donc Disneyland, j'imagine que les situationnistes avaient aussi mentionné dès 1954.
Parce que Baudrillard, en s'intéressant à l'architecture, s'est souvent intéressé aux cas extrêmes et aux phénomènes, je dirais, d'insulation, d'enclaves, comportant leurs propres règles et ayant tendance à l'autarcie. Et Disney, c'est l'exemple idéal typique qu'il trouve, et il y voit une sorte de métonymie de l'Amérique. C'est-à-dire qu'il dit que toute l'Amérique est disneyfiée, et que Disney, en fait, dans sa forme d'enclave, n'est qu'une sorte d'échantillon pur d'un processus à l'œuvre sur l'ensemble du territoire. Ça, il le raconte très bien dans Amérique, paru chez Grasset aussi en 86. Il parle d'une simulation aveuglante. Il y a une sorte de perfection dans cette réalisation autarcique qui en même temps dit quelque chose de beaucoup plus vaste sur l'évolution du territoire américain et des signes qui s'y développent. En même temps, cette manière de voir Disney l'engage petit à petit vers l'idée du simulacre. C'est-à-dire que le simulacre, c'est la vieille thématique d'une réalité séparée d'elle-même. Justement du moment qui reflète le moment où le signe prend son autonomie. Et cette réalité séparée d'elle-même, c'est une vieille histoire, c'est pas à toi Yves que je l'apprendrai, qui recoupe celle de l'aliénation et qui nous ramène aux origines dont tu parlais tout à l'heure de Baudrillard autour de l'école de Francfort et de sa vocation de germaniste. Et
Lukács.
On y retrouve toutes ces catégories, absolument. Et cette analyse de l'espace dans la pensée de Baudrillard permet justement de tirer un fil depuis ses origines jusqu'à ses derniers écrits. C'est aussi pour cette raison que je me suis attelé à Baudrillard et le monstre, ou l'architecture, d'une certaine manière.
Alors, quel est le monstre ?
Le monstre, c'est une sorte de concrétion difficile à dompter et qui a tendance à prendre sa propre autonomie. Alors, Disneyland, c'est un peu de cet ordre-là, mais il y a vu aussi des monstres dans certains grands projets de François Mitterrand. Par exemple, dans l'Opéra Bastille, qu'il voyait un peu comme chute d'un désastre obscur, comme dirait l'autre. Dans la Grande Arche, également. Mais aussi dans des constructions radicales qui, encore une fois, imposaient leurs propres règles hors du quotidien. Biosphère 2, j'ai beaucoup intéressé à Biosphère 2, cette idée de parc scientifique où les humains vivraient en autarcie et auraient leurs ressources autosuffisantes au sein d'un environnement artificiel. Ce qui était déjà très précurseur par rapport à tout un tas de questions qui se posent à nous aujourd'hui sur cette interrogation générale sur les ressources, entre parenthèses, et qui avait à voir avec la conquête spatiale. mais qui a à voir aujourd'hui avec l'idée de, comme dit Elon Musk, nous on s'en fout, nous on se casse et je fais ma fusée.
Et, c'est un personnage à la Baudrillard.
Oui, absolument. Et Big, Bjerk Ingels, qui fait des stations spatiales sur Mars, qui fait des projets de stations spatiales sur Mars. Je dirais qu'on, 30 ans après, oui, c'était la fin des années 80. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est Steve Bannon, le maître à penser de Donald Trump, qui était aux commandes de ce projet. Et qui a coulé, qui a fait une faillite financière mémorable et qui a été un échec humain parce que la communauté s'est très mal entendue assez vite et puis c'est plutôt les cafards qui se sont multipliés que les jolies tomates sous serre et sous abri. Donc Biosphère 2, ça l'a beaucoup intéressé, mais aussi, et ça c'est vraiment le monument qui incarne son intérêt pour l'architecture, c'est les deux tours du World Trade Center. Pourquoi ? Parce qu'elles sont, d'abord elles sont jumelles et dans la pensée de Baudrillard il y a souvent cette pensée de la gémelléité. Et puis, parce qu'elles incarnaient le système financier capitaliste dans une forme de concrétion matérielle. Et le fait qu'elles soient tombées, d'abord, c'était vraiment un acte politique, on enfonce une porte ouverte, c'était une attaque frontale contre le système, la mondialisation et ses valeurs. Et puis, ce qui l'a encore plus frappé, c'est qu'elles soient tombées toutes les deux en même temps, dans sa pensée de la gémellité. Et il y a vu comme une sorte de prédiction qu'il avait habité pendant des années se réaliser en acte sous ses yeux, en direct. On l'a tous vu à ce moment-là, c'était il y a 20 ans, à la télévision.
Et donc il dit...
Il y a 25 ans même.
À propos des grands travaux de Mitterrand, il me semble qu'il a dit de la très grande bibliothèque, un endroit que vous adorez détester.
Oui, puis avant les grands projets de Mitterrand, il s'est aussi fait connaître par un texte très... très agressif contre le Centre Pompidou.
Alors, j'allais te demander, parce que toi, tu connais très très bien le Centre Pompidou, et là, il se plante, en fait, dans son analyse par rapport aux enjeux, la réussite, le côté ludique. Moi, je suis arrivé à Paris un an après l'ouverture de Pompidou, et j'habitais à 100 mètres de Pompidou, à la rue des Archives, et c'était quand même très joyeux, très convivial, très agréable... Il faisait un petit peu preuve de puritanisme, là, de...
Ça dépend.
Haussmannisme. Il défendait les passages de Benjamin contre la modernité.
Alors, il s'est planté.
C'est toi qui sais sûrement mieux que moi.
Non. Et tu le sais aussi bien que moi, Yves. Il s'est planté et pas planté sur le succès. C'est-à-dire que le succès était durable.
Elle disait que c'était pour effondrer le bâtiment, que 100 000 personnes allaient venir pour faire effondrer le bâtiment.
Tu vois, donc il s'est planté et pas planté.
Mais il ne l'aimait pas.
Il l'a aimé. Il a fait partie de la revue Traverse pendant plus de 10 ans. Et ça a été un habitué des débats au Centre Pompidou, Baudrillard.
Je suis d'accord. Il aimait bien qu'il y ait du design.
Oui, il aimait Beaubourg. Il n'aimait pas... la vision de la culture que représentait Beaubourg.
Pompidou.
Mais aussi. Mais il a cette phrase que tu as rappelée où il dit « Les masses y sont venues en masse et pourvu qu'elles continuent à y venir parce qu'elles feront, elles feront en sorte que le bâtiment s'effondre sur lui-même. » En revanche, ce qu'il avait très bien vu, ce qu'il n'aimait pas dans le Centre Pompidou, c'était son côté périssable. Et ça, il ne s'est pas trompé parce qu'il y a eu combien de rénovations ? Il y en a une au milieu des années 90, n'est-ce pas ? À la fin des années 90.
Et je parlais de pérennité avant, c'est peut-être pas si mal ces rénovations.
Il va fermer pour 5 ans, peut-être 6, on ne sait jamais. Hein, quand
gens,
on se lance dans
les
des
gens
travaux,
souffrent, ils sont malheureux.
On ne sait jamais combien de temps ça dure. Et ça sera sans fin. Et ce qu'a dit Renzo Piano et ce qu'ont dit Renzo Piano et Richard Rogers au moment du projet, c'est qu'ils avaient fait un projet temporaire, périssable. Qui, par définition...
C'était la pensée de l'époque.
Absolument.
C'est utopie, là. C'est
était voué à l'obsolescence. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que le même architecte qui, à 34 ans, est lauréat de ce concours, présente un projet qui doit s'autodétruire, et il le sait lui-même. Hein, quand les réseaux ne sont pas protégés...
Les pièces sont pas calibrées, par
que
exemple.
Que les tripes sont à l'air, que...
C'est des pièces uniques, qui sont construites pour Beaubourg, donc on ne peut pas les remplacer.
Et la corrosion de ce bâtiment, elle était inévitable. Et donc, quand on présente ça à 34 ans, au début des années 1970. Et puis qu'on est l'architecte des rénovations successives. Et puis qu'on est consulté à chaque fois pour ces rénovations successives. Il y a quand même un paradoxe, mais il y a un paradoxe qui dit des choses, là, pour le coup, des architectes eux-mêmes et de leur position dans la division du travail. Et puis quand on présente un projet comme Renzo Piano et Richard Rogers, deux inconnus à l'époque, dans un concours ouvert, tout le monde pouvait participer, avec un jury souverain. Parce que ce n'était pas vraiment le projet de Georges Pompidou. Hein. C'est Jean Prouvé qui l'a vraiment mis en avant. Et qu'en 2012, on finit sa carrière avec une équerre d'argent pour le tribunal de grande instance sous la forme d'un PPP, où c'est l'entreprise Bouygues qui a contracté en faisant venir un grand architecte, entre guillemets, pour rester leader dans la compétition entre les majors du BTP. C'est un drôle de destin quand même, et ça en dit long, et là pour le coup c'est aussi une des choses que j'évoque dans le livre, sur la condition des architectes, en fait une condition de mercenaire pour ainsi dire. Une condition de mercenaire mais qu'on comprend dès lors qu'il s'agit de travailler pour les autres, parmi les autres et avec les sous des autres. Il y a une sorte de caractère mutilé dans l'autonomie de l'architecture et qu'on voit très bien à travers le parcours de Renzo Piano. Renzo Piano est un grand architecte, la question ne se pose pas. Quelqu'un très intéressant, très cultivé. C'est sans doute l'architecte qui produit le plus d'aphorismes dans les entretiens qui lui sont consacrés. C'est quelqu'un qui est très perspicace. Et en même temps, on voit très bien à travers son propre parcours quelle est la condition qui est faite aux architectes aujourd'hui.
On va bientôt faire une petite pause, mais tu parles d'architecte star, brusquement je me demande si c'est dans Baudrillard qu'on parle d'architecte, dans ton livre, qui est la notion d'architecte star qui va intervenir.
Oui, dans le livre j'en parle, oui, oui, absolument.
Et donc c'est à ça qu'on va assister là, parce qu'on a, toi et moi on a travaillé sur l'architecture gonflable, donc il faut aussi voir une dimension architecture gonflable dans Baudrillard, dans Beaubourg. Puisqu'ils coupent, les pompiers exigent qu'on coupe les plateaux en deux, mais l'idée c'était de plateaux immenses, complètement vides, c'était des praticables en fait, c'est des choses
si qui un lien, très souples. S'il y a un lien du centre Pompidou avec le gonflable, il est lointain et alors on peut le voir à travers Archigramme. Archigramme, qui était la référence des deux architectes avoués et qui avait imaginé des édifices culturels qui pourraient être transportés par des ballons gonflables.
On est dans l'utopie.
Mais elle est
loin. C'est une belle réussite utopique, comme ce Beaubourg.
Ah, mais oui, c'est un succès. Mais d'ailleurs, il prophétisait son succès. Mais il y a quelque chose de sombre chez Baudrillard aussi. C'est-à-dire qu'à travers son succès, il voyait une mort de la culture aussi. Mais à laquelle il a participé, encore une fois, avec la revue Traverse et avec les nombreux débats qui s'y sont tenus.
C'est le côté germaniste qui revient. une pensée profonde, philosophique, éthique, allemande, de la culture et effectivement sa prostitution dans le spectacle le plus absolu.
Et
le
spectacle
triomphe.
Il y a un côté indéniablement romantique et nihiliste chez Baudrillard dans ses écrits. Il y a l'idée de pousser les pointillés du pire, pour voir jusqu'où l'hypothèse va tenir. Hein.
Nous allons faire une petite pause musicale.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Paris, New York, New York, Paris. Comme un pauvre con, tout seul à Orly. J'attends ma petite Suzy qui arrive par le Boeing de 15h33, tout droit du Minnesota. Oh. Comme je peux pas rester en place, Suzy a une plombe de retard. Flat l'idée me prend d'aller traîner mes godasses sur le dépotoir de l'aérogare qui est juste en face. Et là, vautrer sur la banquette d'un jumbo jet déglingué, je rêve. Yeah! À Paris, New York, New York, Paris, comme si vous y étiez, comme si tu y es. Tout mon Parnasse à Manhattan, 5ème avenue, 6h du soir. Vise-moi ce connard! T'as pas 100 balles pour un junkie, héroïne, pressée, cocaïne, baby. Papier, New York, vitrine, you see what I mean. Pompier trop tard, Madison Square. Struggle for life et business show. Salaud! Lis ton journal, crise mondiale. Eddie Merckx a bouffé son vélo. Panne de lumière à Santiago. Captain Nemo crash sur la lune et je toxique dans le couloir qui mène à ton dernier métro. Paris, blackout, New York, bravo, bravo. Lâchez le fauve. Avec son ticket troué à la main, il a faim, il a faim. Paris, New York, New York, Paris. Dans 10 ans comme là-bas, ici.
Donc nous sommes sur Alir FM 93.1, dans La vie est un roman, et je parle avec Jean-Louis Violeau de son livre Baudrillard et le monstre. Et donc maintenant nous pouvons peut-être aborder le sujet de Jean Nouvel. Et il y avait une amitié assez forte entre eux, ils ont même publié un livre d'entretien qui s'appelle Les objets singuliers. Et donc tu parles beaucoup de Nouvel dans ton livre, évidemment, Baudrillard et le monstre.
Oui, parce que c'est rare, en fait c'est assez rare, de voir un compagnonnage aussi régulier et au long cours entre un architecte très connu et qui mondialisé et qui a une entreprise de 150 salariés, plus de 150 salariés à gérer, et un intellectuel qui vit plutôt dans le loisir de la pensée. Et cette rencontre, elle a eu lieu, en effet, entre Nouvel et Baudrillard. C'est peut-être celle qui a eu le mieux lieu et qui a tenu le plus longtemps. Comparativement à l'époque où il y a eu des interactions entre architectes et intellectuels reconnus, poussées en ça par François Barré, qui venait d'arriver à la direction de l'architecture et qui avait encouragé ça. Par exemple, on a vu Philippe Solers parler avec Christian de Porzamparc, mais il en est tiré un petit livre qu'on peut trouver chez Folio, mais qui a moins de portée et de précision que Les objets singuliers, le livre...
C'est très différent.
Oui, et ce compagnonnage-là entre Nouvel et Baudrillard a été fructueux dans les deux sens. C'est-à-dire que Baudrillard participe dès 1983 à la modernité ou l'esprit du temps, au catalogue de Jean Nouvel. Et puis, il va participer aussi à l'exposition, la première grande exposition monographique sur Nouvel qui avait eu lieu à l'Institut français d'architecture en 1987 et qui va donner lieu à un livre sur l'œuvre de Nouvel qui déjà existe puisqu'il a gagné avec Architecture Studio le concours pour l'Institut du monde d'Arabe, qui est en train d'être livré précisément à ce moment-là. Et un texte de Baudrillard accompagne ce catalogue et puis ça va se prolonger. Donc, 10 ans plus tard, il y aura ces objets singuliers. Et régulièrement, il y aura des interactions entre les deux, sans que Baudrillard soit inféodé d'une quelconque manière à Jean Nouvel. Il n'a jamais été salarié de l'agence Jean Nouvel, hein, Jean Baudrillard.
Et donc, c'est effectivement, l'architecture de Nouvel, c'est des objets singuliers. C'est dans ce sens-là, l'investissement de Baudrillard est absolument compréhensible. En fait, et tout fait événement, tout est spectaculaire, tout est chaque fois particulier. Le contexte est pris en compte,
Si on voulait trouver un trait d'union assez simple à se représenter, disons que dans l'architecture de Nouvel, il y a la volonté de radicaliser chaque situation et éventuellement pour atteindre une forme de disparition de l'objet. On l'a très bien vu avec son projet de la Tour sans fin, qui était un projet de gratte-ciel sur les flancs de l'Arche de la Défense, dont le sommet était censé s'évanouir dans les nuages à mesure que la tour s'élevait. Projet qui malheureusement ne s'est pas réalisé, mais qui est resté dans les mémoires. Et d'ailleurs, des gens pensent que cette tour existe, comme quoi le verbe et le texte et l'image peuvent aussi créer des représentations durables. La Tour sans fin ou la Fondation Cartier, c'est ça, c'est une radicalisation jusqu'à la disparition. Et ça, c'est le moment, donc le début des années 1990, la position de Jean Nouvel, et on peut dire que la sociologie et la pensée de Jean Baudrillard tend également dans cette disparition par l'excès après un phénomène de radicalisation des hypothèses. Et d'ailleurs, il a sorti un texte qui s'appelle « L'architecture radicale ». C'est de cette manière-là qu'il a vu l'architecture. Et en soi, et ça nous ramène à ta première remarque sur Henri Lefebvre. Henri Lefebvre, dans son troisième tome de la critique de la vie quotidienne, qui commence au milieu des années 60 et qui se termine avec ce troisième tome en 1981, il dit de l'architecture qu'elle a, elle a deux rôles. Elle est d'abord prise comme un symptôme, et puis elle devient une cause. Symptomale, puis causale. Et en ça, il diagnostique la crise de la modernité. Et finalement, symptomale, puis causale, radicalisation, puis disparition. Au fond, c'est un peu le trait d'union qui peut réunir, qui peut rapprocher donc, la sociologie, la pensée de Baudrillard et l'architecture de Jean Nouvel.
Et c'est une ponce postmoderniste.
Bien sûr. Et Jean Baudrillard a été... Frédéric Jameson nous a quittés
Hier ?
Oui, avant-hier.
Il n'y a pas d'article, alors j'ai regardé ça ce matin, je voulais mettre sur la page de l'émission un bel article posthume, j'ai rien trouvé.
Non.
C'est terrifiant.
Bon, on attend notre quotidien vespéral, Le Monde, pour faire quelque chose, mais c'est vrai que c'est troublant. Aucun article n'est sorti sur sa disparition. Alors, Jameson était un critique du postmodernisme, sous un versant plus marxiste. Baudrillard a été une figure de la pensée postmoderne, mais pas du tout sur la même ligne critique que Jameson. C'est plutôt un penseur de la postmodernité.
Il y en avait un petit éditeur qui s'appelait Les Prairies Ordinaires, là. Et il y avait Miles Davis, ces gens-là ont quand même été formidables.
Oui, mais Baudrillard, c'est un penseur de la postmodernité, et les deux autres, Davis ou Jameson, sont des critiques de la postmodernité.
Oui.
Mais bon, toujours est-il que Baudrillard, c'est une figure.
Donc il est solidaire de la postmodernité, tu veux dire, Baudrillard.
C'est même un de ceux qui l'ont fécondé dans la pensée. Alors ensuite, que le destin de ce terme ait été ambigu et malheureux, il y a tout un tas de raisons à cela. Une des premières, je pense, c'est le surmoi marxiste. C'est-à-dire que si je regarde l'architecture, le domaine que je connais un peu mieux, les modernes se sont inspirés de l'industrie pour faire de l'architecture. Ils ont souhaité que la forme suive la fonction, que les logiques d'efficacité se retrouvent dans la conception des espaces. Les postmodernes, ils ne se sont pas intéressés à l'industrie, ils se sont intéressés aux édifices du commerce et du divertissement. J'ai parlé tout à l'heure de Venturi qui va à Las Vegas. On peut aussi parler de toutes les études qui ont été menées sur les grands magasins. et les espaces du commerce.
Il y a toute une esthétique des stations-service.
Donc
les sens qu'on voit bien, qui est cinématographique, tout ça.
Là où les modernes se sont intéressés à l'industrie, les postmodernes se sont intéressés au commercial et au divertissement. Ce qui, évidemment, colle mal avec le surmoi des gens du monde des univers culturels. Il y avait quelque chose d'un peu sale, d'un peu...
Ah, c'est transgressif, oui. C'est
pas très propre.
Le pop.
Voilà. Donc, c'est ce qui explique aussi l'éclipse durable du postmodernisme en architecture. Alors même que l'architecture postmoderne a existé, et même elle a été pionnière par rapport au monde des idées en général sur ce sentier de critique de la répétitivité, de l'efficacité, de la reproduction des modernes. Et elle a été pionnière puisque le livre de Charles Jenks, Le langage de l'architecture postmoderne, est sorti 2 ans avant celui de Jean-François Lyotard, La condition postmoderne. La condition postmoderne sort en 1979 aux éditions de Minuit et l'ouvrage de Charles Jenks sort en 1977.
Donc il commence par la destruction de HLM. On fait exploser des bars.
Oui, alors
aux États-Unis.
C'est l'acte de décès du modernisme, puisqu'on
détruit... On tue le Corbusier...
Et on détruit surtout un bâtiment qui n'est pas au bout de son cycle de vie. Donc c'est un échec en acte. Pretty Go, Saint-Louis, Missouri, 1972. Et c'est l'acte de décès, en effet, de la modernité. Et d'ailleurs, ça nous ramène, parenthèse, à Baudrillard, puisque l'architecte de ce grand ensemble... nul autre que Minoru Yamazaki, qui est aussi l'architecte du World Trade Center. Donc, comme quoi, il y a des architectes qui ont des postérités un peu malheureuses. Bon, c'est l'acte de naissance de la postmodernité dans le sens où on détruit un bâtiment qui n'est pas rentabilisé. C'est un échec de conception, mais aussi un échec de peuplement, évidemment.
De vision du monde.
Et aussi un échec de peuplement.
Beltane Shaung.
Les choses sont beaucoup plus complexes que ne laisse apparaître la première vue du sujet, mais la première vue, elle frappe l'esprit, quoi. Et le postmodernisme, ça va quand même chambouler complètement l'architecture des années 1970 et 1980. Et ce qui m'a le plus surpris en arrivant dans cet univers il y a maintenant longtemps, donc au début des années 1990, début, milieu des années 1990, donc il y a 30 ans, venant des sciences humaines, de l'université, de la sociologie, de la théorie littéraire, on y parlait de la postmodernité. Et c'est par cette clé d'entrée-là que j'ai découvert des architectures postmodernes qui coïncidaient avec ces théories et ce mot qu'on prononçait encore dans les départements de sciences humaines. Et lorsque je suis arrivé dans les écoles d'architecture, je me suis dit, ah bien voilà, quel merveilleux terrain d'application. J'ai rencontré tout un tas d'architectes qui ont été des sentinelles, les pionniers de ce mouvement. Et donc je suis allé les interroger à l'époque, et aucun...
Ils étaient tous communistes et ils étaient tous fans de Le Corbusier.
Pas seulement, non, même des gens qui n'étaient pas communistes, qui étaient plutôt des compagnons de route ou d'ex-gauchistes, pas des communistes bontins, refusaient ce terme. Alors qu'ils avaient eux-mêmes produit une architecture historiciste, alors qu'ils avaient retrouvé le cadre urbain, alors qu'ils avaient retrouvé l'ornement, alors qu'ils avaient retrouvé la citation, alors même que certains s'étaient engagés dans des architectures parlantes, postmoderne, moi, jamais de la vie, je ne l'ai jamais été. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un tel déni?
Et donc, tu publies un autre petit livre, un petit livre qui s'appelle Les Hespérides. Enfin, il n'est pas petit, c'est le format de la collection chez l'éditeur B2, formidable éditeur de livres sur l'architecture, que nous saluons en passant. Et donc, c'est le sujet des Hespérides. Nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans la vie est un roman avec Jean-Louis Violo. Et nous allons terminer l'émission en parlant de son livre, Les Hespérides, publié aux éditions B2. Qu'est-ce qu'il y a dans Les Hespérides?
C'est une forme de réflexion qui part de la question « Pourquoi tant de haine ?» Pourquoi tant de haine par rapport à ce mouvement qui a eu des tentatives...
Tu parles du postmodernisme.
Du postmodernisme architectural qui a eu des tentatives, certes, pas toujours élégantes, un peu maladroites, mais qui en tout cas était plein de bonne volonté dans l'idée de réconcilier enfin l'architecture avec les masses, avec le fait populaire. Et pourquoi donc tant de mépris pour cette initiative, certes un peu maladroite, mais courageuse d'une certaine manière. Et j'ai avancé ce texte réflexif en même temps que je travaillais à un guide sur l'architecture postmoderne parisienne.
Qui a été publié au Moniteur.
Au Pavillon de l'Arsenal.
Au Pavillon de l'Arsenal, pardon.
Entre 1973 et 1993. On avait fait ce guide en accord avec les gens du Pavillon de l'Arsenal, avec l'idée que c'est un patrimoine qui a bientôt un demi-siècle et qui est très présent dans la ville.
Et qui est menacé.
Oui, et dans ce quartier de Paris particulièrement, puisqu'il y a une ZAC, Château des Rentiers, toute proche, qui a été une sorte de banc d'essai de cette architecture, et qui, en effet, aujourd'hui, arrive, après un demi-siècle, à beaucoup de phénomènes de destruction, ou de restructuration très lourde, ou d'isolation thermique par l'extérieur, qui font qu'on est dans des situations très délicates pour beaucoup d'immeubles. Alors, c'est assez curieux, parce qu'un mouvement qui est né, encore une fois, sur la destruction de barres de grands ensembles, lui-même se trouve pris au piège de l'obsolescence un demi-siècle plus tard, mais comme quoi bon, les choses sont sans fin. Et donc cet inventaire, je l'ai mené au tout début des années 2020 et j'avais commencé à identifier à peu près 600 bâtiments. Et dans les 3 ans qu'ont duré la recollection des documents, l'écriture des notices, le travail sur le guide, plus d'une vingtaine ont disparu des listes, parce que soit ils ont été détruits, soit ils ont été tellement recarrossés et transformés qu'on avait perdu leur identité d'origine. Donc c'est un phénomène qui va assez vite, plus vite qu'on ne le pense, et parallèlement à ce travail d'inventaire, eh bien, je m'interrogeais pourquoi tant de haine ?
Pourquoi tant de haine ? Et alors ? Quelle est la réponse ?
C'est évidemment, les réponses sont multiples. Il y a la question de l'élégance, il y a la question de la maîtrise formelle, il y a la question d'un goût pour le minimalisme qui est quand même assez ancré.
Une historisation touristique, Paris transformé en Disneyland, et ça n'entre pas dans le cadre du patrimoine haussmannien.
Non, c'est pas ça. Je pense aussi qu'il y a, pas une haine de la sociologie, mais une forme de défiance. C'est-à-dire que ça remonte à une histoire assez ancienne, qui est la chute de l'école des Beaux-Arts en mai 68, la fin de la section architecture et l'éclatement de l'école en unité pédagogique. Et c'est pile le moment de l'arrivée des sociologues en masse dans les écoles d'architecture. Et à l'époque, ils sont pris un peu comme des messies. C'est-à-dire que les architectes se posent... Ils ont bien compris que ce qu'ils avaient fait avec les grands ensembles, ça n'avait pas rencontré le suffrage populaire. Déjà, le premier article de sociologue sur la question, c'est Madeleine Lemaire et Jean-Claude Chamberaudon, qui s'appelle « Proximité spatiale et distance sociale ». Juste avant 68. Et on a compris que c'est pas en rapprochant les gens spatialement qu'on les rapproche socialement. Et que l'architecture qui leur est offerte ne favorise pas précisément ces contacts. Donc il y a quand même déjà une prise de conscience un peu latente. Et assez forte, notamment du côté de l'administration qui va soutenir les contestataires de l'école des Beaux-Arts. Bon. Et l'école éclate. Et on ne sait pas trop à qui se fier et comment faire une nouvelle pédagogie. L'école des Beaux-Arts, elle a 2 siècles de pédagogie derrière elle, du modèle de la référence antique. Alors on va chercher en Grèce ou à Rome des exemples pour faire des grands ensembles. On marche un peu sur la tête, certes. Mais cette pédagogie-là et ces références-là s'effondrent d'un coup. Et qui va-t-on chercher pour, comme recours ? Ce sont les sociologues. Et en fait, on demandait beaucoup aux sociologues. Et ils ont bien déçu, on va dire les choses telles quelles. Dès la fin des années 70, les premiers signes du désamour se manifestent et ils s'affirment vraiment dans les années 80. Et ce que néanmoins les sociologues ont accompagné, c'est le postmodernisme. Alors pour moi, un des dénis aussi chez les architectes du postmodernisme, c'est le déni de l'influence des sociologues sur la reconstruction de la pédagogie au lendemain de mai 68. C'est-à-dire que je pense que s'il y a un style de sociologue en architecture, c'est le postmodernisme architectural. C'est l'apport des sciences humaines, le savant et le populaire, le rôle de l'ornement, l'attention aux usages, la question de la réception. Tout ça, c'est amené par les sciences sociales.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une disparition pure et simple de la figure de l'architecte qui aurait été un phénomène historique, qui aurait existé pendant, je ne sais pas, une centaine d'années ?
Alors ça, c'est un peu comme, c'est un peu comme l'écrivain, c'est un peu comme le créateur dont on annonce régulièrement la disparition. Au XIXe siècle, on a dit que l'architecte allait disparaître derrière l'ingénieur. C'était le moment où on venait de créer l'école polytechnique, et puis au fil du siècle, l'architecture du fer et du verre, le Crystal Palace, Robert Paxton, les ingénieurs vont prendre tout ça en charge. L'architecte a survécu. Ensuite, L'architecte, on a dit qu'il allait mourir avec la préfabrication lourde. Il a certes failli mourir, l'école des Beaux-Arts en a éclaté d'une certaine manière.
Le chemin de grue,
la préfabrication des panneaux, le carcan, du cadre de production.
La colle à la place du ciment.
Bon, l'architecte est revenu. Aujourd'hui, et on est en train de vivre cette période, c'est les ressources, c'est la question des ressources. Comment faire des projets encore dans un monde dont on a mesuré la finitude des ressources et les limites? Comment faire des projets? Comment transformer? Et évidemment, en mettant en jeu de la matière et de l'énergie. On voit très bien qu'il y a une forme de réaction autour des petites villes, autour d'un retour au rural, que les derniers grands prix d'architecture et d'urbanisme sont des gens qui ont porté cette école depuis maintenant une quinzaine d'années, je pense en particulier à Simon Tessou, de l'école de Clermont-Ferrand. Et aujourd'hui, les architectes qui arrivent dans cet univers rêvent d'être des architectes de campagne, comme on a eu des médecins de campagne. Bon. On le voit très bien dans le cadre des soutenances de HMO, c'est l'habilitation à la maîtrise d'œuvre qui fait suite à l'obtention du diplôme. Donc la ressource, on a pensé que ça allait canner, puis finalement l'architecte s'est redéfini. Eh bien on peut dire la même chose de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les nouveaux discours depuis deux ou trois ans, l'arrivée de Midjourney notamment, qui est un logiciel de fabrication d'images automatique, laisse entrevoir les mêmes perspectives. Moi, je pense qu'il survivra. Il a survécu
à l'industrialisation, au chemin de grue, aux ressources. Mais est-ce qu'on n'est pas sous une dictature des grosses entreprises du BAT ?
Ah, mais il y a toujours eu le chemin de grue dont on parlait,
oui, bien,
le procès des camions.
La reconstitution après-guerre.
Au fond, il y a toujours eu cette domination du monde de la production. Mais c'est ce qui fait que l'architecte est tellement intéressant pour un sociologue. C'est parce qu'il a cette... et là, je reprends le mot de Lorenzo Piano. Il a cette autonomie mutilée. Et ça le rend très intéressant parce que sa production est toujours impure. L'art pour l'art, c'est quasiment inenvisageable dans le champ architectural.
Mais donc on a des espèces d'œuvres atypiques, spectaculaires, et puis une architecture de tous les jours.
Ah oui, mais ça, c'est la vieille dichotomie entre architecture et construction.
Ouais.
Toutes les constructions ne sont pas de l'architecture savante. Il y a quand même toujours eu ces deux univers. Et les gens ont toujours construit un abri sans pour autant faire de l'architecture.
Ça ne change pas pour toi.
Ah non, mais c'est cette dialectique qui est intéressante.
J'ai pensé, tu prenais l'exemple de la littérature, j'ai brusquement eu cette impression que c'était quand même un phénomène en France du 19e siècle. Mais le... Ou si tu veux, après Céline, il y a la mort de Céline, il y a une espèce de... Mais ChatGPT existait déjà, si tu veux. Il y a une fabrication... c'est simplement l'aura, en fait. C'est une question oratique.
Il y a un livre plutôt stimulant, je trouve, d'Antoine Compagnon, qui vient de paraître. La littérature, ça paye ou pas, qui commence justement par un rappel. Il rappelle que Pierre Nora, encore lui, puisqu'on en parlait tout à l'heure, quand il était éditeur dans les années 70, se refusait à lire des livres issus du traitement de texte. En disant que le texte dégoulinait, qu'il était sans forme, qu'il était plein de rajouts et qu'on perdait le fil directeur à cause de l'outil. Bon, Compagnon cite Claude Bonnefoy qui a passé les 20 dernières années de sa vie, professeur au Collège de France, sur son clavier d'ordinateur. Bon, il revient un peu en arrière et il dit, voilà, les plus grands écrivains, sauf Alexandre Dumas, ont à un moment donné, lorsqu'elle est apparue, refusé la plume de fer. En disant que la plume de fer était une première mécanisation de la création. Après, il y a eu le traitement de texte. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Alors, il dit à juste titre que la new romance, en revanche, sorte de soupe, elle sera faite par l'intelligence artificielle. On produira du texte au kilomètre, mais la vraie littérature, elle sera toujours. On peut en dire autant de la construction et de l'architecture.
Dans mon rapport velléitaire à la sociologie, il y a par exemple le fait qu'il y avait 3000 bacheliers en 1900. Et puis... que quand moi j'ai passé mon bac comme candidat libre, il y en avait 100 000 et que maintenant il y en a 500 000. Et donc on change d'objet.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir à chaque fois comment ça se transforme.
Absolument. Et quelle est l'œuvre la plus pertinente à un moment donné.
Et il y aura toujours des gens qui sauront se saisir des outils qui arrivent pour en faire autre chose que ce à quoi ils étaient destinés au départ.
Bien sûr, c'est le... C'est évident, bien sûr, et donc ça se passe ailleurs. Oui, je pensais aussi, l'énorme investissement dans les jeux vidéo, enfin sur à propos d'art, dans des endroits qui nous échappent parce qu'on ne les pratique pas, mais où c'est des questions à la vie et à la mort pour des questions d'esthétique, par exemple, ou des questions d'éthique, dont on ne peut nous absolument pas saisir les enjeux. Et tu vois,
c'est cet idéal qui fait que l'histoire oui, bien continue sûr. Toujours.
Quand on pense que, par exemple, moi, j'ai grandi au moment où la dégénérescence totale de la peinture abstraite, par exemple, sa finition dans un bain d'académisme terrifiant et de dilution.
Georges Mathieu.
Par exemple, alors j'ai été voir la présentation à la presse de Fabienne Verdier, qui est très très célèbre, qui a fait 10 ans en Chine, qui a vendu 100 000 exemplaires d'un livre dont elle parle de ça. Et une toile faisait furieusement penser à Georges Mathieu. Dans ma visite de presse, j'étais saisi.
Tu as rajeuni.
Alors moi, ma référence était la galerie Might, donc c'était pour nous, c'était la référence absolue, parce que ça voulait dire Beckett, Brandenveld, etc., etc. Et c'est la galerie Might qui s'appelle Le Long aujourd'hui, qui expose Fabienne Verdier et qui expose donc un genre d'abstrait d'une joliesse terrifiante. Donc on a fait le tour total. Le retour du même, tu vois.
Mais les conditions du marché, les conditions voilà, d'existence des arts.
J'adorerais que ce Jean Frémont qui dirige la galerie aujourd'hui nous parle de. Il a fait un David Hockney en Normandie qui a eu énormément de succès et qui l'a dû tuer pour y arriver. Tu vois, je voudrais savoir. On est à Rome au XVIe siècle, là, quand même, pour que cette galerie ait survécu et une place toujours aussi puissante. En n'ayant pas donné dans le conceptuel, enfin tout ce qui a été intellectualisé dans l'art ces 50 dernières années, et en tenant quand même une part du marché très importante. Donc est-ce qu'il y a des sicaires, est-ce qu'il y a des meurtres, est-ce qu'il y a des violences?
Pour en avoir un peu parlé avec des artistes jeunes aujourd'hui, quand on leur pose cette question, ils leur répondent « mais la peinture n'est jamais morte ».
Oui, bien sûr. Absolument, mais le... Bon, ben, on peut imaginer... Quand même, l'architecture, ça se résume à une série de stars, maintenant, dans l'écho...
Non, c'est un univers où les inégalités de conditions sont très, très fortes. Mais c'est le cas de la plupart des univers culturels, hein. Le gagnant prend tout, c'est assez identifié par la sociologie, mais en architecture c'est particulièrement aigu, et je dirais que c'est un univers où l'élastique se tend un peu, a tendance à se tendre de plus en plus entre les situations les plus favorisées et les situations les plus difficiles.
Les plus paupérisées. Écoute, ouais. Merci à toi, on va devoir conclure, c'était formidable. J'espère que vous êtes content de ce petit aperçu de Baudrillard et l'architecture. À la semaine prochaine.
Merci Yves, et merci à l'éditeur Parenthèse.
Merci à lui.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.